des vôtres. Prenons soin des autres. C'était pour faire rire les filles. On vous expliquera à un moment donné.
Salut!
Salut, là!
Une station créée pour les gens de Québec. Pas de script, pas de personnages, pas de rire en canne, de la spontanéité à l'état pur. Ici, la radio que vous voulez entendre avait l'instinct de parler de ce qui vous intéresse.
That's amazing.
Et jouer la musique que vous aimez.
There's nothing fake.
Chaque jour, on vous livre notre quotidien, votre actualité, au rythme de ce qui se passe dans notre ville et partout ailleurs dans le monde.
Bring the country together.
Mettant en vedette plein de dudes puis de dudettes bien sympathiques qui connaissent leur affaire.
You didn't know it until now.
Yeah, aucun film.
Dans l'auto, à la maison ou au bureau, tout le temps, c'est Boulevard 102.
Salut, bonsoir Québec, bienvenue sur les zones de Boulevard 102.1, en espérant que tu aies passé une certaine sacrée belle journée, quoique il y a neigé. L'hiver est pas terminé, non, l'hiver est pas terminé, quoique certains en pensaient. On nous annonce un genre de 5 cm pour ce qui est de ce soir, température stable à près de moins 1 degré. Pour ce qui est de demain, mardi, ce sera des averses de neige ou de la pluie. Encore là, demain, un 2 cm annoncé, maximum de plus 4 degrés. Mercredi, nuageux, maximum de plus 5. Jeudi, de la neige ou de la pluie intermittente avec un maximum de plus 4 degrés. Et vendredi, pour terminer la semaine de travail, ben, ce sera nuageux avec 60 % de probabilité d'averse de neige, maximum de plus 4 degrés. 60 minutes en compagnie de Maître Marc Bellemare. Comme à chaque lundi, Maître Bellemare, c'est l'ancien ministre de la Justice sous le gouvernement Charest. Donc, on va aborder plein de sujets qui touchent l'actualité. Les élections qui ont été déclenchées hier. On va parler aussi du Grand Range l'autre côté. On parler de Mark Carney et Pierre Poilievre, bien entendu. Donc, restez là. Merci d'être bien branchés sur Boulevard 102.1.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir. Le soir.
Maître Marc Bellemare, bon lundi soir. Comment allez-vous?
Très bien, et vous, M. Marceau?
Ça va très bien, j'entends une petite grippe. Est-ce que c'est une grippe d'homme ou une simple grippe? Parce que si c'est une grippe d'homme, Maître Bellemare, j'espère que vous avez un soluté près de vous et que vous êtes alité à l'urgence, à l'hôpital. Ça ne doit pas être facile.
Moi, je peux vous dire, M. Marceau, que la seule grippe que je connaisse, c'est la grippe d'homme. Alors, je ne sais pas ce qu'est une grippe autre qu'une grippe d'homme. Peut-être que... Il y a des grippes de femmes ou des grippes d'ados ou des grippes d'enfants, mais je peux te dire que la grippe d'homme, c'est ça. C'est ce que j'ai actuellement et depuis quelques jours et j'ai bien hâte de m'en débarrasser.
Oui, quelques-uns de mes collègues ont contracté effectivement cette fameuse grippe cette année qui semble être extrêmement difficile pour plusieurs personnes. Très peu de gens m'ont dit « Yann, j'ai une simple petite grippe, c'est facile. » La plupart des gens ne rentrent même pas travailler, sont alités et ont de grosses difficultés dans leur journée. Visiblement, vous êtes capable de faire une émission de radio. Fait qu'un gros merci.
Bien, on va faire notre possible. Parce que c'est sûr que la voix est un peu caverneuse, mais les idées sont quand même, je pense, à leur place. Alors, on va essayer d'être pertinent comme d'habitude.
Est-ce que vous avez été excité par le lancement de la campagne électorale hier?
Bien, j'ai écouté ça attentivement hier, dimanche. C'était full screen, comme diraient les Espagnols. Il y en avait partout sur les écrans.
Ouais.
Alors, oui, j'ai trouvé c'était un lancement qui était conforme. M. Carney, je trouve qu'il parle beaucoup. Je ne sais pas si ça va y nuire ou si ses conseillers politiques vont commencer à y enseigner l'art de la clip, parce que je pense que comme banquier central du Canada puis de l'Angleterre, le sens de la clip, il ne l'avait pas. C'est des réunions interminables. Ça, ces gars-là sont en réunion 30 heures par semaine. Là, c'est pas ça, là. Il va avoir à sortir une clip, quelque chose de précis, puis de répondre à la question. Ça, il faut qu'il se développe ça, parce que hier, je trouvais que ça n'avait pas de sens. Là, c'était trop long, son affaire. Et Poilievre était beaucoup plus précis dans ses interventions. Mais là, évidemment, est-ce que ça va permettre à M. Poilievre de l'emporter? Ça, c'est une autre histoire, parce que il semble que l'équipe libérale et que l'organisation libérale, sans compter son conseil des ministres, parce que lui, il a non seulement une équipe électorale, mais il a une équipe politique en place à la Chambre des communes. C'est un atout important pour lui. Alors, on verra bien comment M. Poilievre va se débrouiller dans tout ça, mais jusqu'à maintenant, là, en tout cas, je trouve que son lancement a été réussi hier.
Là, les tarifs arrivent en pleine campagne électorale à partir du 2 avril. Les tarifs de Donald Trump seront mis en place du côté américain. J'écoutais, en fait, je lisais Mario Dumont aujourd'hui, puis ce qu'on nous mentionne concernant les propos de Mario Dumont, c'est que les libéraux pourraient être susceptibles de mettre un petit hold à la campagne électorale, un genre de 2-3 jours où Mark Carney serait obligé de reprendre son chapeau de premier ministre du Canada pour mettre en place les contre-tarifs et essayer de négocier avec l'équipe de Donald Trump, ce qui laisserait à Mark Carney un genre de 3, 4, même 5 jours supplémentaires pour jouer au premier ministre, tandis qu'on aurait un Pierre Poilievre. Là, je reprends les propos que j'ai lus ce matin. Si je ne me trompe pas, c'était dans le Journal de Montréal, Journal de Québec. Pierre Poilievre serait comme le petit caniche là, qui jappe dans le stationnement pendant que l'autre joue au premier ministre, ce qui serait à l'avantage de Mark Carney.
Oui, peut-être, mais en même temps, c'est sûr que plus il joue au contre-tarif, plus il intervient dans le contexte de la guerre tarifaire, plus il est susceptible d'affronter Trump, il est susceptible d'avoir des mauvais commentaires de la part de Trump. Et moi, je pense que je devine dans la stratégie de Carney qu'il veut éviter Trump à tout prix d'ici au 28 avril, d'ici au jour de l'élection. Parce qu'il a peur de se faire humilier, il a peur de se faire rabrouer, il a peur de se faire ridiculiser. Et s'il y avait une attaque frontale de M. Trump à la personnalité de M. Carney, ça pourrait lui nuire. Ça pourrait nuire à son image de grand défenseur, puis d'homme fort, puis de larges épaules face au président américain. C'est un mythe, hein, parce qu'il n'a jamais rencontré Trump. Il ne lui a jamais parlé. Et là, il se présente comme l'homme fort du Canada contre Donald Trump. Alors, moi, je pense qu'il évite ça à tout prix, puis je n'ai pas l'impression qu'il va suspendre sa campagne électorale pour risquer d'avoir une fronde de la part de M. Trump. Tu te souviendras, dans le sommet économique du G7, il y a quelques années, à la Malbaie, quand Justin Trudeau s'était fait rabrouer par Donald Trump, Trump était dans l'avion, il retourna aux États-Unis, puis Trudeau avait fait une déclaration que Trump n'avait pas appréciée. Et M. Trump avait dénoncé le comportement de Justin Trudeau. Ça avait nui à Trudeau, ça.
Oui, mais j'ai pas l'impression que les gens qui sont derrière Mark Carney, c'est des gens qui sont pro-Trump. Là. La plupart des gens qui aiment Trump aux États-Unis, des Canadiens qui aiment Trump aux États-Unis, la plupart de ces gens-là sont des conservateurs. Moi, je vois, puis quand j'ai lu ça dans les dernières heures, ce que Mario Dumont avait mentionné, je trouvais l'idée un peu folle. Ah oui, mettre un hold sur les élections fédérales, ça aurait comme pas de bon sens. Mais les libéraux pourraient peut-être utiliser cette stratégie-là, c'est-à-dire on va montrer aux Canadiens que notre premier ministre est capable d'être un premier ministre, même si c'est un newbie comme politicien. Je trouvais que la remarque n'était pas folle, n'était pas anodine, là.
Non, c'est sûr. Mais ça dépend comment sa campagne se déroule. Si sa campagne se déroule bien, si Carney a toujours le vent d'un voile, d'ici au 2 avril, parce que là, on est quoi, le 24 mars, 2 avril, c'est quand même dans une dizaine de jours. Si sa campagne va bien, il ne suspendra pas. Si sa campagne va mal puis qu'il cherche désespérément à reprendre le contrôle, peut-être qu'il va faire ça. Mais moi, je te le dis, là, il y a intérêt, Carney, à laisser planer toujours cette image d'homme fort face à Trump, alors qu'il n'a pas communiqué avec Trump, alors qu'il ne l'a pas rencontré, puis à laisser l'affaire aller en espérant que Trump ne pognera pas une crise d'urticaire contre Carney éventuellement. Mais ça m'étonnerait que Trump n'ait pas un commentaire défavorable face au Canada, puis dans le contexte électoral, ça m'étonnerait que Trump demeure silencieux jusqu'au 28 avril. Il va certainement péter une coche, là, une coche ou deux. Maintenant, c'est qui va c'est qui va se ramasser la victime de cette coche-là? Je ne sais pas si ça va être Poilievre ou si ça va être Carney, mais ça pourrait avoir un impact. Je ne dis pas que les libéraux qui appuient Carney sont nécessairement favorables à Trump. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui est favorable à Trump, même du côté des conservateurs. Il y en a, mais il n'y en a pas tant que ça. Il y en a de moins en moins, certainement. Mais si Trump décide de décocher un jab à l'encontre de quelqu'un au Canada, ça pourrait avoir un impact. Les gens pourraient avoir un impact, une réaction par rapport à ça. Surtout si Carney a l'air fou dans cette affaire-là, puis qu'il a l'air un peu du petit chien battu, là, ça pourrait nuire à son image. Parce que là, les gens le voient comme Superman. Là. Il manque juste le T-shirt avec le gros S. Là. Mais les gens voient Carney comme Superman. C'est une image qui est complètement artificielle parce qu'il n'y a aucun fondement à cette image-là, parce qu'il n'y a pas d'exercice pratique dans les relations avec les Américains. Il a tout fait pour éviter le président américain depuis le 9 mars, ouais. Depuis qu'il est chef libéral.
Ça va être une bonne campagne, je pense. Puis j'ai l'impression qu'à la toute fin, ça va être une course qui va être pas mal plus serrée qu'on pense. Là, actuellement, le Parti libéral du Canada semble dominer dans les intentions de vote. Mais effectivement, les journalistes vont se pencher un peu sur les deux candidats. Puis espérons que les journalistes fassent leur travail, ce qui va faire en sorte qu'on va avoir un portrait plutôt clair, plutôt qu'un portrait biaisé des candidats, du moins pour les Québec. Pour ce qui est du Canada anglais, bon, la couverture semble être assez neutre. Au niveau du Québec, on a une haine au niveau des médias, là, ce que je peux lire, ce que je peux entendre. Il y a une haine du côté des conservateurs, là, c'est assez ressenti, là.
Oui, je trouve que c'est assez biaisé par rapport à...
Exact.
Je regardais même la semaine passée, vendredi passé, il y a eu la réunion des premiers ministres avec M. Carney. Donc, Carney se présente avec les premiers ministres au Musée de la guerre à Ottawa. Et c'est un gros hit, là, parce qu'il a réussi à avoir Legault, à avoir Ford, mais Daniel Smith n'est pas là, puis c'est pas mentionné dans les reportages de Radio-Canada en fin de soirée, vendredi passé. Mais ça, c'est une façon de dire que M. Carney a eu du succès avec tous les premiers ministres, mais Daniel Smith n'est pas là. Alors, il y a quand même un problème dans sa réunion si la première ministre de l'Alberta n'est pas là. Mais moi, je l'ai appris dimanche passé, hier, à l'occasion du lancement de la campagne, que Mme Smith n'avait pas été là. Mais bon, tu sais, il y a toutes sortes de façons d'être biaisé. Là. Tu peux juste passer sous silence certains bons coups. Tu peux décider de ne pas présenter, de ne pas donner trop de temps d'antenne à M. Poilievre. Hier, au moment de la je checkais entre RDI puis LCN, et pendant qu'on laissait parler M. Singh du NPD en français, Poilievre parlait en français en même temps. On a coupé l'antenne à Radio-Canada pour donner du temps à Singh, alors que Poilievre était à TVA pendant ce temps-là, à LCN pendant ce temps-là. Fait que, tu sais, il y a des choix qui sont faits par les producteurs, les réalisateurs, les recherchistes. Et je ne pense pas que M. Poilievre soit avantagé par les différents penchants des grands réseaux de télé, en tout cas les réseaux de télé généralistes actuellement.
Ouais, notre travail, c'est d'être neutre, bien entendu. Par contre, ça ne nous empêche pas de dire ce qu'on remarque et de donner notre opinion. Mais effectivement, tu sais, puis je lisais ce matin les règles du CRTC. Quand on fait la couverture pour ce qui est des élections fédérales, provinciales ou municipales, faut donner le même temps d'antenne à tout le monde, à toutes les parties. Malheureusement, au Québec, ça semble pas toujours être pris au sérieux, cette demande-là ou cette obligation-là du CRTC. Maître Bellemare, j'ai le goût de vous parler des slogans. Êtes-vous un homme de slogans, vous?
Ah, ben, j'ai pas le choix. C'est rien que ça qu'on entend.
Pour ce qui est de Mark Carney, le slogan des libéraux, c'est « Un Canada fort ». Pour ce qui est de Pierre Poilievre, le slogan des conservateurs, c'est « Le Canada d'abord ». Lequel est le meilleur des deux, selon vous?
Écoute, je trouve que ça se ressemble beaucoup, là.
C'est pas mal la même affaire.
Un Canada fort, c'est plus... par le biais de l'économie, j'imagine, le biais de sa prestance à l'international. Alors que Canada first, ça veut dire on va s'intéresser au Canada avant de s'intéresser ailleurs. Mais là... De toute façon, le Canada d'abord, on le sait. Là, on a toujours pensé que les gouvernements et les partis politiques s'intéressaient au Canada d'abord. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'inventivité pas beaucoup de créativité dans les slogans, si tu veux mon avis. Là. Ça fait dur.
Celui du Bloc québécois, Maître Bellemare, c'est « Je choisis le Québec ».
Ouais, ça a plus d'allure. Ça parle plus aux Québécois. Et moi, j'ai parlé à beaucoup de gens en fin de semaine. Puis, il y a beaucoup de gens qui, dans ce contexte-là, qui sont écœurés des libéraux, je parle des Québécois, là, qui sont écœurés, ils ne veulent pas donner un quatrième mandat aux libéraux. Ils ne sont pas trop séduits par le banquier taciturne qui est Mark Carney. Ils ont peur de Poilievre, fait qu'ils vont aller au niveau du Bloc. On pourrait peut-être être étonné de ce côté-là. Moi, j'ai l'impression que le Bloc, au moment où les deux grands partis peut-être ne séduisent pas autant qu'on l'aurait souhaité, la valeur refuge a toujours été le Bloc. Tu le sais, hein? Les Québécois ont toujours voté Bloc quand ils ne savaient pas où aller ailleurs. À moins qu'il y ait, tu sais, comme Mulroney, ils ont voté Mulroney, ils ont voté Jack Layton pour le NPD, quand il y avait une alternative véritablement intéressante, ils allaient vers un grand parti. Mais autrement, ils se réfugient derrière le Bloc parce que tu le sais, le Bloc, il n'y a pas de risque à voter pour le Bloc. Ils ne seront jamais élus au gouvernement. Il n'y aura jamais de premier ministre du Bloc québécois. Mais en même temps, un vote pour le Bloc, c'est un vote de réaction, c'est un vote d'affirmation. C'est un chien de garde à Ottawa, fait que ce n'est pas totalement perdu comme vote. Moi, je pense que les gens qui votent Bloc québécois ne sont pas des imbéciles. Mais c'est une forme de vote plutôt négatif, mais en même temps, ça assure la présence de chiens de garde au fédéral, même si je trouve que le Bloc, depuis 4 ans, a plus ou moins joué son rôle, effectivement, au niveau d'Ottawa. Je pense qu'il aurait pu être beaucoup plus cinglant. Il aurait pu renverser Justin Trudeau l'automne passé, ce qui aurait été une bonne chose. On aurait un portrait politique tout à fait différent aujourd'hui, mais ils ont voté beaucoup avec Justin Trudeau comme le NPD, puis ça, je suis pas d'accord avec ça. T'sais.
Le slogan du NPD de Jack Meet Singh, voilà son nom, c'est du cœur au ventre, Maître Bellemare, et la caisse électorale là, du NPD est à son plus bas. Ça risque d'être des élections fédérales assez difficiles pour Jack Meet Singh, et j'ai l'impression que ce sera son dernier tour de piste pour ce qui est de Jack Meet. D'après moi, il va devoir penser à d'autres choses dans les prochaines années, là.
Oui, mais c'est ça, le vote en présence du Bloc québécois au Québec, il y a beaucoup de tu sais, le côté social au Québec, là, parce qu'on ne se cachera pas que le NPD, c'est un parti social, programmes sociaux, filet de sécurité sociale, prêt des travailleurs, la loi anti-scab, les soins dentaires, c'est ça. Alors, c'est à gauche, on est à gauche résolument avec le NPD, mais il y a des options au Québec. Il y a le Bloc québécois, même à la limite, les libéraux. Arrive là avec les programmes de soins dentaires. Ils arrivent avec des. Ils veulent élargir les soins dentaires à tous ceux qui ne sont pas couverts à partir de l'été prochain. Je me demande où ils vont prendre l'argent, incidemment. Là. Ils ne nous ont pas dit où c'est qu'ils allaient prendre l'argent parce qu'on est cassés comme des clous. Mais il reste que les libéraux ont présenté ça. Alors, il y a des options à gauche, au Québec, qui sont différentes du NPD. Puis le NPD n'a jamais eu vraiment une approche très respectueuse des champs de compétences provinciales. Il n'a jamais eu une approche très axée sur le français. Il y a Alexandre Boulris, qui est un bon parlementaire, qui est à Montréal, le seul député NPD au Québec. Je pense qu'il doit être nerveux aujourd'hui parce que, il va y avoir énormément de rivalités dans son comté. Le Bloc québécois va certainement essayer d'aller chercher ce comté-là, les libéraux aussi. À mon avis, sur l'île de Montréal, on s'entend que les conservateurs sont à peu près absents. Alors moi, j'ai l'impression que s'ils ne sont pas absents complètement, mais j'ai l'impression qu'on va avoir une lutte. M. Boulris va avoir une campagne électorale, à mon avis, beaucoup plus occupée que celle qu'il a connue au cours des derniers mandats.
Maître Bellemare, je veux vous amener peut-être un peu plus au Québec. François Legault, qui vendredi est allé d'une déclaration à l'emporte-pièce qui, je pense, a fait perdre les dentiers de plusieurs personnes qui suivent la politique québécoise depuis des années et des années. François Legault, qui a ouvert clairement la porte au projet de pipeline de gaz ou de pétrole en provenance de l'Ouest canadien, et il a mentionné une seule condition, c'est il faut que les Québécois offrent leur consentement à ce fameux projet de pipeline de gaz ou de pétrole. Je trouve ça hallucinant, puisque François Legault n'a jamais demandé l'avis de personne depuis qu'il est au pouvoir. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils ont peur pour les prochaines élections, la coalition Avenir Québec?
Je ne sais pas, mais je pense que les Québécois, François Legault l'a certainement senti, les Québécois sont beaucoup plus ouverts à des projets énergétiques qui pourraient transiter par des pipelines, des corridors, des pipelines qui pourraient notamment amener le gaz naturel, amener le pétrole albertain jusqu'à la côte atlantique pour pouvoir d'abord alimenter le Québec puis l'Ontario, mais aussi alimenter l'Europe. Parce que le marché, les Européens sont pognés avec le gaz et l'énergie de Poutine. Ils dénoncent Poutine qui rentre en Ukraine, mais en même temps, ils financent la guerre de Poutine en consommant son énergie, notamment son gaz naturel. L'Allemagne et la France notamment. Fait que là, une façon d'isoler Poutine puis de lui faire la guerre, c'est de consommer de l'énergie qui vient d'ailleurs, puis ça pourrait venir du Canada. Compte tenu que les Américains sont plus ou moins intéressés à cause des tarifs. Alors là, la game a changé. Je suis convaincu qu'il y a beaucoup plus de Québécois qui sont ouverts à cette possibilité-là qu'avant. Maintenant, Pierre Poilievre, hier, dans une entrevue, disait que 75 % des Québécois étaient favorables à un pipeline. Je ne sais pas où il a pris ça.
Ben moi, j'ai les chiffres ici. Là. Ça date de la mi-février. C'est un sondage Somme la presse et on suggérait que le projet GNL Québec serait appuyé par 61 % des Québécois et celui d'Énergie Est autour de 59 %.
Mais en tout cas, M. Poilievre parlait hier de 75 %. Je ne sais pas si ça vient de ses propres données. Ils ont certainement sondé. Hein, les partis politiques font des focus groups, ils font des sondages maison pour savoir où loge l'opinion publique. Si M. Poilievre a dit qu'au Québec, 75 % des gens étaient favorables à des pipelines, à des oléoducs, moi, je pense qu'il a pris ça dans des données fiables. Parce qu'il ne l'aurait pas affirmé autrement. Puis il part sa campagne avec cette donnée-là, à la base. Fait qu'il dit, j'ai pas besoin d'avoir l'accord de François Legault, j'ai l'accord des Québécois. 75 % des gens sont favorables. Fait qu'il dit, ça prend des oléoducs, faut transporter l'énergie de l'Ouest canadien et de l'Est canadien jusqu'à la côte pour pouvoir alimenter toute l'Est du Canada puis aussi alimenter l'Europe. Alors, moi, je ne suis pas contre ça, là, les oléoducs. Je ne suis pas contre les pipelines. Tout est une question de sécurité. Sur le fleuve Saint-Laurent, il y a des énormes cargos, des énormes pétroliers qui se promènent. Et puis, il y en a sur la côte pacifique. Est-ce que c'est sécuritaire? À un moment donné, si on regarde juste le côté sécuritaire, on ne fera plus jamais rien. Mais je pense que les pipelines, là, je sais qu'il y en a beaucoup aux États-Unis, qui traversent jusqu'en Louisiane notamment, puis on les voit, ils sont sortis de terre à plusieurs endroits. C'est un moyen reconnu, fiable, de transporter l'énergie. Alors, je pense qu'il va falloir arrêter d'avoir peur à un moment donné puis permettre que ça se fasse.
Mais il y a juste au Québec, Maître Bellemare, qu'on attend d'être dans misère pour dire « OK, finalement, on va y aller de l'avant avec ce projet-là ». Parce que GNL Québec, là, ça fait des années qu'on en parlait, puis on avait fermé la porte à ça en disant, puis on n'avait pas consulté les Québécois, mais on avait dit « Non, on veut plus de ça chez nous, c'est trop compliqué, c'est polluant, patati et patata ». Maître Bellemare, j'ai l'impression que dans quelques mois, avec le gros orange qui nous fait toujours peur l'autre bord. J'ai l'impression que dans quelques mois, on va reparler d'exploration des sols québécois, à savoir si on ne pourrait pas sortir tout ce gaz-là ou même ce pétrole-là qui est disponible chez nous dans nos terres. Pourquoi on est toujours comme ça? Pourquoi on ne pourrait pas être à l'avant-garde? On dirait qu'on attend tout le temps d'être dans la misère pour dire finalement, on va le faire, plutôt qu'être précurseur.
Oui, on est peureux et puis on lave plus blanc que blanc. Et je me souviens du temps de Jean Charest, il allait chercher le chèque de péréquation de 9, 10, 12 milliards, qui venait essentiellement de l'Alberta, parce que le pétrole, évidemment, ça rapporte de l'argent, et ça fait de l'Alberta une province riche. Donc, on avait la péréquation de l'Alberta, mais en même temps, on leur crachait dessus en disant qu'il polluait.
On l'appelle pétrole alors, sale. Pétrole sale.
Le pétrole sale. C'était le discours de Charest, premier ministre du Québec, premier ministre libéral. C'est ce qui soulevait l'ire des Albertains qui disaient « On vous donne de l'argent pour financer vos garderies, vos CPE, puis vos soins de santé, puis tous les programmes sociaux que vous avez au Québec, puis Dieu sait qu'il y en a. Puis en même temps, vous nous crachez dessus quand c'est le temps de soutenir l'industrie pétrolière. » Et c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de frustration chez les Albertains, non seulement par rapport au Québec, mais par rapport à tout l'Est du Canada qui pense un peu comme ça, où on a des vertus écologistes ici, puis on se dit, ah, l'écologie est first, puis tout ça. Oui, c'est important, l'écologie, mais là, on a une problématique avec les Américains, et si on continue d'avoir des règles écologiques aussi importantes, puis des restrictions aussi importantes, puis un refus d'exploiter nos richesses naturelles, à un moment donné, on va avoir des problèmes parce qu'on va avoir une rareté qui va faire que ça va être beaucoup plus cher, et si on ne développe pas nos richesses naturelles, on va perdre des occasions d'affaires extrêmement importantes. Alors là, l'Europe de l'Ouest, l'Europe occidentale, a besoin d'énergie. C'est un fait. Les Américains ont décidé de se replier sur eux-mêmes, puis la consommation d'énergie canadienne, que ce soit l'hydroélectricité, le pétrole, le gaz, avec les Américains, il n'y a rien de moins sûr. Alors, c'est pour ça qu'il faut développer vers l'Est. Et d'abord, notre consommation au Canada... Il faut consommer canadien, ça veut dire qu'il faut consommer de l'énergie canadienne. Ça passe par des oléoducs, on va être capable d'aller chercher ce pétrole-là. Parce que le transport du pétrole, ça se fait ou bien par la route, ou bien par les bateaux, ou bien par avion, ou bien par les oléoducs. Le plus facile, c'est les oléoducs. Donc, il faut développer ça et rechercher des marchés européens. Et je suis convaincu que Mark Carney, dans son voyage en France, et en Angleterre, il n'y a pas juste discuté en France d'achat d'avions de combat. Là. Il y a aussi probablement discuté de la question énergétique, parce qu'on a de l'énergie ici que les Européens n'ont pas.
Ah, Maître Bellemare, imaginez-vous si on avait discuté de ça v'là 30 ans, v'là 40 ans, l'exploration de nos sols, sortir le gaz, là, sortir le pétrole, à quel point aujourd'hui on serait une province extrêmement riche, puis à quel point on serait fier, Maître Bellemare, d'envoyer des chèques au Canada pour qu'ils puissent avoir un panier de services l'équivalent du nôtre. Ça serait une belle fierté.
Non, mais dans les années 70, quand Robert Bourassa avait proposé 100 000 emplois...
Ouais.
C'était à la baie James. Et il y a beaucoup de Québécois qui ont travaillé à la baie James. Il y a encore beaucoup de Québécois qui travaillent à la baie James. Il y en a d'autres qui travaillent à la Lorraine. Il y en a qui travaillent à Fermont. Il y en a qui travaillent dans les mines. Il y en a qui travaillent dans les barrages hydroélectriques. Mais ça aussi, c'est une autre affaire à laquelle il faut penser. Le développement hydroélectrique au Québec, parce qu'on peut harnacher d'autres rivières, on peut construire d'autres barrages. François Leduc en a parlé. François, pas le Duc, mais François Legault en a parlé lors des deux campagnes électorales, particulièrement, si je me souviens bien, en 2022, où il disait qu'il faut regarder l'opportunité de développer d'autres barrages pour produire de l'hydroélectricité. Parce qu'il y a un projet actuellement qui est analysé qui consisterait à envoyer un câble sous-marin dans l'Atlantique pour aller rejoindre l'Europe. Un peu à l'image de ce qu'on a comme câble sous-marin sous le lac Champlain pour alimenter l'État de New York. Je pense que ça a été à peu près une dizaine de milliards pour ce câble sous-marin-là. Puis pour l'Europe, ça coûterait 40 ou 50 milliards pour rejoindre l'Europe par l'hydroélectricité aussi, ce qui permettrait au Québec de vendre l'hydroélectricité aux Européens. Parce que c'est malheureux, l'Europe, c'est pas à porte, là, c'est loin. Mais en même temps, c'est un marché qu'il va falloir développer. Compte tenu que les Américains nous regardent de travers, c'est le temps de regarder d'autres marchés. Puis un câble sous-marin, sous l'Atlantique, ça pourrait permettre au Québec de vendre son électricité et de produire davantage d'électricité à partir des barrages, parce qu'on a le territoire et on a l'eau qu'il faut. Mais là, il faut débloquer au niveau de l'acceptabilité sociale. Et quand Legault nous dit « Oui, les oléoducs, je suis d'accord avec ça, mais ça dépend de l'activité... L'acceptabilité sociale, ça veut dire quoi? Ça veut dire, lui, il ne prendra pas de décision, puis il va faire un référendum. Il va faire quoi, là? Il va faire sa prochaine élection là-dessus, ça se pourrait. Parce que là, l'acceptabilité sociale, c'est quoi? C'est que ça finit plus, puis dès qu'il y a quelqu'un qui lève la main puis qui dit non, on ne bouge pas. Ça ressemble à ça, le Québec, là, depuis 15-20 ans.
L'acceptabilité.
Il y en a un qui lève la main, qui n'est pas d'accord, on ne bouge pas. Puis il y a un gars qui s'accroche après un bateau qui dit, moi, je suis Greenpeace. Je suis Greenpeace, puis je décide de tu sais, comme notre ministre du patrimoine, ministre de la langue française a fait dans son jeune temps. Ça prend juste un gars qui crie pour que le gouvernement ne bouge pas, parce qu'il y a la première nouvelle au téléjournal.
Maître Bellemare, vous m'avez envoyé un article qui date du 21 mars dernier. C'est paru dans la presse. Je pense que ça vaut vraiment la peine d'en jaser de ça, parce que j'avais déjà entendu parler que les douaniers américains avaient le bras quand même assez long là, en ce qui a trait à nos effets personnels. Bon, ils peuvent fouiller dans nos valises, bien entendu, peuvent fouiller notre voiture, peuvent faire des fouilles corporelles. Bien honnêtement, je pensais qu'ils pouvaient juste regarder mon iPad ou juste regarder mon cellulaire, mais je ne pensais pas que je devais, si je voulais rentrer en sol canadien, donner mes mots de passe aux douaniers. Pour que lui puisse fouiller dans mon appareil électronique. Et l'article en question, c'est un article de Chloé Bourquin, mentionne que c'est un diplomate qui a été interrogé parce qu'il a traversé la frontière, puis il a dû donner ses mots de passe. Et là, on a regardé son ordinateur professionnel et son téléphone personnel, puis on a découvert Maître Bellemare qui avait eu des propos assez particuliers au sujet de Donald Trump. Je ne pensais pas qu'ils pouvaient fouiller à ce point-là dans nos affaires.
Oui, c'est l'histoire d'un chercheur français le 9 mars. Il s'en allait à une conférence à Houston, Texas, sur son domaine de prédilection. Et donc, c'est un Français. Il a fait l'objet d'un contrôle aléatoire. On a fouillé son ordi, son téléphone. Et on a vu qu'il y avait eu des propos négatifs face à Donald Trump au niveau du financement de projets scientifiques. Parce qu'on dit que Donald Trump a arrêté de financer beaucoup de projets scientifiques, beaucoup de projets dans la recherche, etc., médicaments et autres. Et cet homme-là était pas content. Fait qu'ils ont vu ça, ils l'ont retourné chez eux le 10 mars. Il n'a jamais pu rentrer aux États-Unis. Alors, sous prétexte de potentielle criminalité, pédophilie en ligne, menace pour la sécurité nationale, terrorisme, etc., les douaniers américains peuvent faire des contrôles aléatoires, comme on en faisait ici dans le temps de la COVID. C'est-à-dire, on décide, toi, tu passes au test. Et s'ils ont des doutes, ils peuvent fouiller. Alors, ce que ça veut dire, c'est oubliez la notion de doute, là. Les douaniers américains peuvent fouiller les ordis, les tablettes et même les appareils photo, les cellulaires. Alors, si vous rentrez aux États-Unis, soyez assurés qu'ils ont le droit de regarder. Puis, s'ils trouvent des affaires, ils peuvent considérer que vous êtes une menace à la sécurité nationale, puis ils peuvent vous retourner de bord ou ils peuvent confisquer votre téléphone. Alors, c'est une réalité. La loi n'a pas changé. Les contrôles douaniers ont toujours existé, mais là, avec l'arrivée de Donald Trump, on peut penser qu'ils vont se servir avec beaucoup de bonheur et de plaisir de ces mesures-là pour pouvoir peut-être fouiller plus de monde un petit peu.
Ils peuvent pas utiliser l'appareil pour accéder à des informations qui sont stockées à distance, donc dans le fameux nuage, là. Par contre, ce qu'ils font, c'est quand ils prennent votre cellulaire, exemple, ils vous demandent de le mettre en mode avion et ils ont le droit de fouiller tout ce qu'il y a dans ce dit cellulaire-là. Donc, ce qui est envoyé, ce qui a été reçu,
les courriels,
les photos.
Les photos que vous avez prises. Puis s'il y a une couple de bébés tout nus, des affaires de même, ils peuvent commencer à se demander si c'est pas... Si vous êtes pas, si c'est pas des images pornographiques ou quoi que ce soit. Alors, tu sais, on avait tendance à penser jusqu'à il y a quelques années que si tu n'avais pas de casier judiciaire, un Canadien, là, tu rentrais aux États-Unis, tu n'en avais pas de problème. Si tu avais un casier judiciaire, là, tu pouvais avoir des difficultés, puis même te voir refuser l'accès aux États-Unis, que ce soit par les airs ou par la terre. Mais là, ils sont un petit peu plus parano. Ils ne nous font pas trop confiance. Ils savent que notre frontière est très poreuse. Et s'ils ont des doutes à ce moment-là, ils peuvent commencer à regarder. Puis si vous êtes visé par une fouille de cette nature-là, ben commencez pas à résister, pas à chialer, parce que ça pourrait vous amener à ne pas pouvoir pénétrer en territoire américain.
Ouais, je m'étais jamais posé cette question-là, à savoir, tu sais, bon, dans mon cellulaire ou dans mon iPad, j'ai-tu des trucs qui pourraient laisser croire aux douaniers américains que je pourrais être une menace pour la sécurité américaine? Mais, tu sais, on en dit des affaires à nos chums. On en fait des jokes. Le sarcasme, est-ce que les douaniers peuvent comprendre le sarcasme? Mais en même temps, c'est pas nécessairement écrit dans leur langue, donc il y aurait probablement accès à quelque chose pour les traduire qui comprennent pas le sarcasme non plus. Ça doit être assez particulier. Maître Bellemare, on va faire une très courte pause si vous le désirez bien. Je vous rappelle qu'on est avec Maître Marc Bellemare, l'ex-ministre de la Justice. Si vous avez des dossiers de SAAC, d'IVAC, de CNESST, c'est bellemareavocat.ca. On vient.
Marceau, le soir. Rage against le matin.
Steven cool. Blaney, merci de passer beaucoup. Nous voir. Le premier défi, moi, j'étais ingénieur civil. Avant de faire de la politique, j'ai fait 20 ans de balancement de réseau d'aqueduc. Hey, j'ai encore mes bottes de surveillant de chantier de 93, de Spatial, de Sorel.
Allez voir les travailler ces chantiers à Lévis?
Ben, je vais sûrement aller voir les travaux. Moi, j'ai commencé comme surveillant de chantier sur des travaux d'égouts aqueduc, donc les tranchées, tout ça, la protection contre le gel. Il m'appelait Steven Proctor Blaney, parce que Proctor, ça, c'est la compaction. Tu sais, quand tu fais une route, il faut qu'elle soit bien compactée, ouais. Si tu veux pas qu'elle vienne toute gondolée. Ça, c'est une machine nucléaire qui fait ça. Puis là, moi, j'étais Steve sans compaction. Il m'haïssait, parce que, tu sais, c'était 93,5. Non, 95.
Ah ouais.
Bon, fait qu'il m'appelait Steven Proctor Blaney. Ou Simon Beaumac Blainé. Des gens qui connaissent la construction savent que c'est des compacteurs.
Oui, oui.
Fait que c'est ça. Fait que j'étais un petit peu zélé, là, mais je voulais des beaux travaux.
C'est correct.
Rage Against le matin. Tous les jours en semaine, 6h. Sinon, vous retrouvez tous nos coups de circuit sur le blvd.fm.
C'est ça. Un emploi stimulant dans le domaine funéraire, c'est possible. À la coopérative funéraire des Deux-Rives, l'humain est au cœur de tous nos gestes. Joignez-vous à notre équipe engagée, vous y trouverez un emploi où vous vous sentirez utile et valorisé. Consultez la section carrière de la coopérative funéraire des Deux-Rives.
Avec Québec et Sainte-Foy Mitsubishi, roulez en RVRES 2024 traction avant pour aussi peu que 99 $ par semaine. En prime, on vous offre les tapis d'hiver. Financement sur 84 mois sans acompte. Tout ça seulement chez Québec et Sainte-Foy Mitsubishi.
Céramics vous offre plusieurs modèles de porcelaine en inventaire à partir d'$1,99 et économisez sur l'installation avec le système auto-nivelant. De plus, vinyle grade commercial à partir d'$1,79 et obtenez 40% sur les planchers chauffants. Mise de côté et entreposage gratuit, céramics.ca.
Moi, c'est seul et bien accompagné.
Moi, c'est où je veux et quand je veux.
Et moi, surtout, c'est sans frais et sans compromis.
Et vous, comment investissez-vous? Grâce aux plateformes Dysnap de Desjardins Courtage en ligne, investissez comme vous l'entendez avec 0 $ de commission sur les transactions sur actions et fonds négociés en bourse. Et profitez d'outils et de formations gratuites pour vous éclairer. Rendez-vous sur Dysnap.com. Certaines conditions s'appliquent.
C'est pas pour rien qu'Abba, c'est le choix du consommateur depuis plusieurs années. Nos estimations sont gratuites, nos interventions sont rapides. Chez Abba, on vend du résultat. Il y a plus de 1 000 avis en ligne qui prouvent que notre solution, ben, elle fonctionne. Abbaextermination.ca ou appelez-nous maintenant au 666-6667. Abba, une solution définitive.
Vous cherchez un traiteur qui allie fraîcheur et qualité? Équilibre Traiteur est la référence depuis 14 ans. Boîte à lunch, cocktail raffiné, buffet, banquet, bref, tout pour vos petits et grands événements. Profitez de produits locaux, frais et d'un service personnalisé. Équilibre Traiteur, votre traiteur.
Vous voulez vendre une maison, un immeuble ou un terrain? Les immeubles urbains font des offres d'achat rapides, sans conditions et ce, peu importe l'état de votre propriété. Service simple et efficace. Vendez facilement grâce aux immeubles urbains. Pour plus de détails, visitez immeubleurbain.ca.
En pleine crise économique, vous voulez Mark Carney de votre côté. En tant que gouverneur de la Banque du Canada, il nous a guidés à travers la crise financière mondiale de 2008. Il a dirigé la Banque d'Angleterre pendant la crise du Brexit. Et aujourd'hui, il est prêt à tenir tête à Donald Trump et ses tarifs. Les Canadiens sont prêts pour du changement. Mark Carney a le plan pour réduire l'impôt de la classe moyenne, créer des emplois et bâtir l'économie à la croissance la plus rapide du G7. Avec Mark Carney, nous gardons le Canada fort.
Autorisé par l'agent enregistré du Parti libéral du Canada. Le Salon du bateau de Québec, ça se passe aussi chez Pomerleau les bateaux. En plus d'être au salon tout le week-end avec l'équipe Yamaha, Pomerleau les bateaux vous accueille dans leur succursale de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier pour un événement à ne pas manquer. Plus de 100 bateaux en exposition, promos exclusives, ambiance festive et un tirage incroyable. Vous pourriez gagner une carte cadeau de 1 000 $ à notre boutique. Ça va être presque autant trippant qu'une journée sur l'eau. Rendez-vous chez Pomerleau les bateaux du 27 au 30 mars.
Vous cherchez un VUS compact, puissant et ultra technologique? Le tout nouveau Taos 2025 vous attend chez Laval Volkswagen. Plus de puissance, plus de technologie et plus d'espace. Écran tactile dernier cri, système IQ Drive de série et un design moderne qui ne passe pas inaperçu. Offre spéciale, louez votre Taos 2025 pour seulement $115,09 par semaine à un taux de 2,99% en location 48 mois pour 20 000 km par an inclus. Laval Volkswagen, sans flafla depuis 1968.
L'application Boulevard, dans une poche près de chez vous. Poche de jeans, poche de short, pis même ta poche d'hockey. Appelez, textez, votez, réécoutez. L'app Boulevard 102.1. C'est plus que du rock. Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir.
Comme à chaque lundi, on a le plaisir de jaser avec Maître Marc Bellemare de bellemareavocat.ca. Maître Bellemare, la semaine dernière, quelques articles ont été écrits sur la présidente de la Fédération des travailleurs du Québec, donc la FTQ, Magali Picard. Et bon, c'est pas toujours joli ce qui se dit sur Magali Picard. Ces temps-ci, j'ai discuté avec certains ex-chefs syndicaux dans les derniers jours, en fait la semaine dernière, précisément jeudi, et on est arrivé sur une idée que Mme Picard a peut-être atteint son fameux principe de Peter, c'est-à-dire qu'on l'a mis à une place où, visiblement, il n'est plus capable de upgrader son professionnalisme là, ou sa connaissance de ses divers dossiers. Ça fait quelques problématiques qu'elle a, Mme Picard, sur une antenne montréalaise. Elle avait mentionné que les lanceurs d'alerte, c'était criminel, alors que ça ne l'était pas du tout. Il y a même une loi qui existe pour protéger les lanceurs d'alerte. Et là, en commission, la semaine dernière, elle a dit que la FTQ devait sortir les gros bras. Est-ce qu'elle a atteint son fameux principe de Peter, là? C'est-à-dire que, bon, elle est à la limite de l'incompétence, là?
Bien, c'est sûr qu'elle nuit beaucoup à la crédibilité de la première centrale syndicale au Québec. La FTQ, c'est quoi, 500 000 membres? C'est beaucoup de monde. Et moi, si j'étais membre de la FTQ, je ne serais pas fier de ma présidente. Parce que Mme Picard, c'est pas la première fois qu'elle se met les pieds dans les plats. Les lanceurs d'alerte dont tu viens de parler, là, c'était les gens qui avaient dénoncé des dépenses irrégulières au sein de la centrale, des dépenses excessives. Et plutôt que de dire, je pense que la seule bonne réponse que Mme Picard aurait pu donner, c'est on va régler ça. Les cotisations des membres, ça nous préoccupe. Il faut que l'argent soit bien dépensé. Et on va faire un travail, on va enquêter à l'interne, puis on va régler ce problème-là. C'est ça qu'elle aurait dû dire, mais c'est pas ça. Elle a dénoncé le dénonciateur de cette situation-là, qui avait parfaitement raison. Alors, aux yeux du public, eh bien, évidemment, elle a perdu de la crédibilité. Puis ça, il faut comprendre que ça s'ajoutait à sa fameuse balade à Dubaï pendant la négociation dans le secteur public. On se souviendra qu'à l'époque des dernières négociations, au moment où il y avait des rencontres quotidiennes avec le gouvernement, les comités de négociation étaient à l'ouvrage 24 heures sur 24. Mme Picard avait décidé de s'envoler vers Dubaï pour aller assister à un congrès sur je ne sais pas trop quoi, là, l'environnement ou peu importe. Alors ça, c'était aussi un problème pour elle. Moi, je l'ai vu en entrevue à LCN ou à TVA parler du chef conservateur, M. Poilievre, dans des termes totalement grossier, le traitant de tous les noms, c'était pas indiqué. Elle peut être en désaccord avec le gouvernement conservateur, elle peut être en désaccord avec Pierre Poilievre, mais il y a une façon de le dire. Puis Mme Picard n'est pas dans un restaurant du coin de la rue, là. Elle n'est pas en train de parler à ses chums dans un sous-sol, là. Elle est en train de parler à un grand réseau d'information nationale et elle invective le chef conservateur copieusement. Moi, je trouvais que c'était déplacé. Ça n'avait vraiment pas de bon sens. Et elle a un problème de contrôle, elle a un problème de choix de mots aussi. Et là, par rapport au projet de loi 89, on sait que c'est le projet de loi que M. Boulay, le ministre des Transports, le ministre du Travail, a avancé, qui vise à limiter le droit de grève dans certains secteurs prioritaires, comme par exemple les garderies, les écoles, les hôpitaux, où la santé, la sécurité seraient menacées pour les bénéficiaires. En tout cas, je n'ai pas le verbatim exact, là, mais le projet de loi 89, ça vise à permettre au gouvernement de limiter le droit de grève lorsque certaines clientèles très vulnérables sont susceptibles d'être pénalisées de façon non réparable. Alors là, elle n'est pas d'accord avec le projet de loi 89, c'est pas une surprise, mais tu sais, de dire on va sortir les gros bras, là, c'est son expression.
Oui, mais ce qu'elle a dit textuellement en commission parlementaire, c'est arrivé ce mercredi dernier, elle dit « on n'aura pas d'autre choix que de prendre la rue pour lutter contre le projet de loi 89, c'est un projet de loi épouvantable, la pire attaque contre le code du travail depuis des décennies, il faut encore sortir les gros bras, il faut encore revenir ici puis s'engueuler parce qu'on n'est pas capable de travailler différemment. » C'est ce qu'elle a mentionné. Et le ministre du Travail, Jean Boulay, dit « attendez un peu, là, c'est parce que là, moi, c'est de l'incitation à la violence. Là. Ça fait quand même peur. Je t'ai branlé, c'est sûr que ça m'affecte. Est-ce que j'ai peur? Bon, j'ai une famille, j'ai des collègues, puis oui, je sens que je ressens des sentiments de peur. » C'est quand même le ministre qui dit qu'il y a une certaine peur par rapport aux propos de Mme Picard. Il va falloir qu'elle revienne là-dessus. Là. Je ne peux pas croire qu'elle ne reviendra pas là-dessus. Là.
Non, mais c'est des excuses qu'elle doit présenter. Et ça prend une coupe de tête brûlée dans sa centrale ou dans le mouvement syndical en général, ou le travailleur isolé, ça prend une coupe de tête brûlée qui vont s'attaquer physiquement à des personnes ou à des biens, du vandalisme, etc. Puis la FTQ, comprenons bien qu'il y a un historique de violence à la FTQ. Je ne dis pas que tout le monde est violent. Je ne dis pas que Mme Picard est elle-même disposée à commettre des gestes de violence, mais les mots sont violents. Et à son niveau, les messages qu'elle envoie doivent être bien codés, bien contrôlés, parce qu'on sait qu'il y a déjà eu des historiques de violence dans la construction, à la Baie James notamment, du saccage. Et dans le cas de Mme Picard, particulièrement à la FTQ, elle devait choisir ses mots de façon encore plus, peut-être plus précise que si elle avait été présidente d'une autre centrale. On sait que la CSN a connu ces épisodes de violence aussi au Manoir Richelieu notamment. Il y avait eu un mort à l'époque, dans le cadre d'une grève, alors que Raymond Malenfant était propriétaire du Manoir Richelieu. Il y a des épisodes de violence dans le vote syndical de temps en temps. Mais à la FTQ, il y a un historique de violence. Et c'est une raison additionnelle pour que Mme Picard choisisse ses mots et ait un ton beaucoup plus conciliant que ce qu'elle a eu jusqu'à maintenant. Mais on a l'impression qu'elle n'est pas capable de jouer ce rôle-là. Et je pense que c'est dans sa personnalité. Et je pense que c'est une présidente dont le statut doit être reconsidéré éventuellement par les membres. Je ne sais pas s'il va y avoir une élection éventuellement puis si elle va passer le test. Mais à mon avis, elle n'est pas à sa place. Mais ça, c'est une opinion bien personnelle.
En jasant avec des ex-chefs syndicaux la semaine dernière, je ne veux pas vous les nommer parce que je veux quand même les garder dans l'anonymat. On parlait du fameux principe de Peter, puis le principe aussi qu'elle n'a jamais rien négocié, cette personne-là. T'sais, dans son travail, elle n'avait jamais eu à négocier, ce qui fait en sorte que c'est quelqu'un qui embarque sur la glace avec des protège-lames, puis elle essaye autant que faire se peut de bien paraître, mais comme vous l'avez dit, ses choix de mots ne sont pas adéquats pour la position où elle est présentement. Mais bref, parlons d'un autre projet de loi. C'est un projet de loi qui a été dévoilé la semaine dernière, Maître Bellemare, puis je le trouve franchement intéressant. Moi, durant mes études, j'ai été longtemps dans la restauration, j'ai été longtemps dans les bars aussi. J'ai eu du plaisir comme pas possible, mais je me souviens que dans la restauration, des fois, on avait des réservations, des 10, 15, 20, donc des groupes là, de 10, 15, 20 personnes. Puis finalement, bon, on se préparait une heure d'avance, deux heures d'avance, que ce soit pour la cuisine ou encore pour la salle à manger, à recevoir ces groupes-là. Et à la dernière seconde, ben, on se rendait compte que les gens n'étaient pas, ne se présentaient pas. Puis là, on attendait un 15-20 minutes pour être sûr et certain que, bon, ça se peut être en retard pour finalement se rendre compte que ces gens-là avaient gâché notre soirée. Le gouvernement qui a décidé de prévoir une facture de 10$ pour chaque client absent qui vont faire en sorte que le restaurateur va perdre de l'argent, donc va perdre des tables pour la soirée. Et les restaurateurs sont ressortis quelques heures plus tard pour dire « 10$, c'est pas assez. Nous, ce qu'on aimerait, c'est un 20$ par personne. Qu'en pensez-vous? »
Ben écoutez, une première observation, Yannick. Honnêtement, qu'est-ce que le gouvernement fait là-dedans? Personnellement, là, je me dis, comment ça se fait que le gouvernement est obligé de passer un projet de règlement qui va être en vigueur, semble-t-il, le 17 juillet prochain pour réglementer l'ensemble des pénalités au niveau de la restauration, alors qu'il y a un phénomène majeur de no-show, peut-être plus endémique que c'était avant. Depuis la pandémie, je pense qu'il y a eu une espèce de courant. Les gens réservent puis ils ne se présentent pas. Puis c'est pas juste dans les restaurants, c'est dans les bureaux de médecins. C'est dans les bureaux de dentistes, c'est un peu partout. Alors, mais honnêtement, je me demande ce que le gouvernement fait là-dedans. Comment ça se fait qu'un restaurateur peut pas lui-même déterminer les pénalités? Parce que là, ça veut-tu dire parce qu'il met 10$ que tu peux pas donner une pénalité de 30$? Ça va être 10 automatique? Si c'est ça, c'est sûr que 10, c'est ridicule. On est en 2025. 10$, t'as rien, là. T'sais, tu vas au McDo avec deux enfants, ça coûte 28$, là, tu sais. C'est aussi simple que ça. Alors, c'est certain que 10$, ce n'est pas assez. Ce n'est pas dissuasif. Il faudrait que ça soit au moins doublé. Puis je suis d'accord avec les restaurateurs qui ont demandé 20$. Mais je le répète, qu'est-ce que le gouvernement fait là-dedans? Comment ça se fait qu'un restaurateur ne peut pas dire « Si tu ne te présentes pas, c'est 50$ la pénalité. » C'est de même. Parce que des restaurants, tu sais, je ne donnerai pas de nom, là, mais il y a des restaurants familiaux où... Il s'en fout, là. Il y a une file à tous les samedis soirs, là, dimanche aussi. Mais il y a des restaurants où, de classe, dans le Vieux-Québec et un peu partout sur le chemin Saint-Louis notamment, où tu as une table très coûteuse. Puis c'est sûr que s'il y a 8 personnes qui ne se présentent pas, ça représente des pertes majeures. Alors pourquoi on ne permettrait pas à un restaurateur d'instaurer lui-même son propre système de pénalité? Et en quoi le gouvernement est autorisé à faire des règlements de cette nature-là qui vont imposer à tout le monde? Comment ça se fait qu'on ne sait pas le libre marché qui déciderait de ça? Puis moi, s'il y a quelqu'un qui me dit « je réserve pour 6 personnes, puis je ne me présente pas, puis il y a ma carte de crédit », qu'est-ce qui empêcherait le restaurateur de dire « ben vous, là, c'est 30$ chaque, ça fait 6, ça fait 180$ sur ta carte de crédit ». J'ai quoi comme explication, moi, devant un juge pour dire que j'ai une bonne raison de ne pas m'être présenté, puis une bonne raison de ne pas payer 180$?
Je regarde ça. Là. Je sais qu'au Québec, il y a déjà des restaurateurs qui le font. C'est-à-dire, si vous réservez avec pour un groupe, exemple, un 10, 15, 20 personnes, ben vous devez mettre votre carte de crédit. C'est bel et bien inscrit que si vous n'annulez pas trois heures avant, advenant le cas où vous n'êtes pas là, ben il va y avoir un certain montant qui va être prélevé sur votre carte de crédit. De même qu'il y a des restaurateurs au Québec qui, lorsqu'ils répondent au téléphone et il y a une réservation à faire, bon, on vous demande votre numéro de carte de crédit, bien entendu, mais on demande l'autorisation de prélever un 10$ par personne pour les gens qui ne se présenteront pas ce soir-là. Et si la personne dit « oui, c'est OK », ben là, la réservation est prise. Mais avec le gouvernement qui met en place ce projet de loi-là, ben là, maintenant, tout le monde est averti. Puis il n'y aura pas juste certains restaurateurs qui vont se sentir en droit de le faire, mais tous les restaurateurs pourront le faire. Les marges de profit dans la restauration, Maître Bellemare, sont minimes. Là. Souvent, on a tendance à penser que ces gens-là sont milliardaires. Non, c'est un 2-3% quand vous êtes chanceux que vous avez comme montant quand vous faites de la restauration qui vous reste dans vos poches.
Oui, c'est certain. Je comprends ça, mais encore là, je te le dis, là... Moi, je pense que ça devrait relever de chacun des restaurants selon l'achalandage, selon les pertes, selon la bouffe aussi. C'est-tu un restaurant de pizza? Y a-tu des pertes? Tu sais, si c'est un restaurant avec de la haute cuisine, Avec des viandes sauvages, par exemple, là, ça peut être assez grave si tu ne te présentes pas avec tes cinq copains, là. Et ça peut être beau, même 20$, c'est complètement ridicule parce qu'il peut y avoir des pertes parce que tu commandes la nourriture, tu t'attends à ce que la personne se présente à telle heure, tu refuses d'autres réservations parce que c'est plein, puis là, tu as une table qui n'est pas occupée dans le milieu de la place. Moi, je pense que chaque restaurateur devrait. Il peut y avoir une. Dans le règlement, une possibilité, une incitation à, mais je ne pense pas que ça devrait être un plafond. Puis je pense que chaque restaurateur devrait pouvoir imposer des pénalités plus importantes. Moi, c'est mon opinion. C'est sûr que si le restaurateur impose des pénalités plus importantes, ça peut aussi nuire au niveau de la notoriété. Tu sais, ça peut avoir des mauvais reportages, des mauvaises étoiles sur Google qui va dire « Ah ouais, ben moi, je pouvais pas parce que j'étais malade, puis j'étais obligé de payer 150$ de pénalité. » Ça peut y nuire au niveau de la crédibilité, mais c'est un choix qu'il fait. Il est dans le commerce, il décide de la bouffe qu'il met, il décide du menu, il décide des gens qu'il dessert. Il devrait aussi avoir la liberté de déterminer les pénalités, les conditions imposées pour les pénalités, le montant pour chaque personne qui ne se présente pas, à mon avis. Mais là, on parle aussi là, que si tu réserves pour 20 personnes puis il y en a 4 qui se présentent, le restaurateur ne peut pas charger pour les 16 qui ne sont pas là.
Ah non, ça n'a pas de bon sens.
Mais c'est quoi cette affaire-là? Je veux dire, à un moment donné, c'est sûr que si tu réserves pour... faudrait au moins qu'il y ait, je ne sais pas, 75% des gens pour lesquels tu as réservé. T'sais, si tu as réservé pour 10 personnes, puis il y en a 8 qui se présentent, on ne chialera pas, là. Mais si tu as réservé pour 10, puis il y en a 2 qui se présentent, là, il y a un problème. Et puis, normalement, tu devrais avoir... il devrait y avoir des pénalités. Sinon, les gens continuent. Puis au Québec, on n'est peut-être pas trop fiable sur les réservations. Les no-show dans le domaine de la médecine, il y en a beaucoup. Moi, je sais, comme bureau d'avocat, nous autres, on réserve toujours les rendez-vous. La veille du rendez-vous, ma secrétaire appelle pour demander, s'assurer que la personne va être présente. Mais quelqu'un qui ne vient pas à son rendez-vous chez nous, je vais te dire une affaire, là, ça va être noté dans l'ordinateur, puis ça va être compliqué pour elle d'avoir un rendez-vous additionnel, parce que c'est un vrai fléau.
Maître Bellemare, je vous laisse vous coucher ce soir. Là. Je ressens votre belle grippe d'homme. Merci de ne pas avoir été en studio avec moi pour me donner cette grippe-là. Vous êtes un homme responsable. Donc, allez vous coucher. Puis le Canadien qui joue demain face aux Blues de Saint-Louis, le Canadien qui est sur une bonne lancée, on va se le dire. On est dans les séries, on est dans le mix actuellement. On lâche pas, ouais. On lâche pas.
Tous les espoirs sont permis.
Merci beaucoup, Maître Bellemare.
Parfait. Bonne soirée.
Pour des dossiers de SAC, d'IVAC, de CNESST, c'est bellemareavocat.ca. Je vous souhaite de passer une agréable soirée. On se reparle demain à la même heure. Salut tout le monde. Bye bye.
Marceau, le soir.
Si je dis le plus vieux stade de baseball en Amérique du Nord, Aerosmith, le but gagnant de McDavid pour le Canada, et Harvard.
Austin, baby! Oh yeah! C'est le grand retour du Rock'n'Ball!
Pis cette année, ça se passe à Boston.
Right. Tu pourrais gagner tes billets pour le show de Linkin Park avant leur passage au Canada et pour voir les Red Sox au mythique Fenway Park en août prochain.
Je te dis ça de même, là, mais regarde dans ta poche en arrière. Il y a 500$ d'argent inclus, puis on a même pensé à ton transport puis ton hébergement avec un crédit voyage.
Hey, une virée à Boston sur le bras de harnais, c'est juste parfait.
Reste à l'écoute. Quand t'entends une toune de Linkin Park, note l'heure pour l'inscrire au blvd.fr.
Parce qu'on sait jamais, in the end, tu vas peut-être te retrouver à Boston grâce à Boulevard 102.1, Nokian Tires et Desharnais Pneus et Mécaniques.
Le Salon du bateau de Québec, ça se passe aussi chez Pomerleau les bateaux. Un événement exclusif en salle de montre avec plus de 100 bateaux en exposition. Pêche, plaisance, sport nautique ou aventure, vous trouverez l'embarcation parfaite avec nos plus grandes marques comme Mastercraft, Yamaha, Chaparral, Harris et bien plus. Les offres sont limitées, alors venez nous voir chez Pomerleau les bateaux à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier du 27 au 30 mars. Ça va être presque autant trippant qu'une journée sur l'eau et vous pourriez gagner une carte cadeau de 1 000$ à notre boutique.
À Québec. Un Ford, ça se mange chez Desjardins Ford.
bonne nouvelle. Desjardins Autocollection est le numéro 1 des ventes au Québec en 2024. Obtenez le F-150 2025 STX en location à 299 $ plus taxes aux deux semaines et le Maverick XLT 2025 en location à 225 $ plus taxes. Détail des offres sur place. Desjardins Autocollection, sur la rue Marais à Vanier.
Le marché immobilier est en feu plus que jamais et il est en faveur des vendeurs. Le manque d'inventaire sur le marché et le nombre élevé d'acheteurs est en votre faveur. N'attendez plus. C'est le temps de vendre avec Patricia de Guara et son équipe. PatriciaetSonÉquipe.com.
Papa Roach est de retour. La tournée The Rise of the Roach, une célébration des 25 ans de l'album Infest, avec une production plus grandiose que jamais. Le 22 juillet, à l'Agora du Port de Québec, Papa Roach. Billets en vente maintenant sur evenco.ca. Ne manquez pas Papa Roach et la tournée The Rise of the Roach.